La politique européenne, en fait, dans cette région, donc, a tendance à avoir plusieurs préférences, en fait, en son sein et divisées. On a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'un groupe des pays nouvellement entrés en 2004, c'est-à-dire la Pologne et les trois Pays-Baltes, qui sont en général beaucoup plus véhéments dès qu'il s'agit des relations avec la Russie. Pour preuve, il y a une déclaration donc conjointe le 9 août dernier qui a demandé un petit peu à l'Union européenne de prendre position assez clairement et de suivre un petit peu voilà la voie que les États-Unis sont en train de suivre, à savoir un soutien assez ferme à la Géorgie. Donc aussi bien en fait du côté de l'Union européenne donc, que du côté de l'OSCE, les deux essaient de faire un petit peu une diplomatie des bons offices en allant en Géorgie et en Russie, en essayant de respecter un petit peu toute la difficile position européenne, qui comme à chaque fois est un petit peu instable, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses, mais qui sur le long terme sera peut-être la plus efficace.
Alors ce mardi, Nicolas Sarkozy, le président français, se rend sur place dans le Caucase. Est-ce que le fait que ce soit à la France de présider l'Union européenne va influencer la stratégie de l'UE justement dans cette médiation du conflit caucasien?
Alors c'est vrai que la France a souvent été par le passé considérée comme un pays très proche de la Russie, du point de vue des pays d'Europe centrale et orientale. On pense notamment effectivement à la guerre en Irak, dans laquelle il y avait une alliance en fait entre les Français, les Allemands et les Russes, qui avait été ressentie assez durement en fait pour un certain nombre de pays comme la Pologne, comme les Baltes. Maintenant, il est vrai qu'il y a eu des changements donc politiques en France depuis 2003. Donc la France peut se présenter comme étant exigeante par rapport à la Russie parce qu'elle n'a pas cette réputation d'être anti-russe, entre guillemets, enfin, du point de vue de Moscou. Et donc elle peut avoir un peu plus de marge de manœuvre, par exemple, que ne pourrait l'avoir la Pologne ou la Lituanie qui s'est engagée clairement d'un côté, en fait.
Alors lundi, la Commission européenne a exhorté la Russie à déposer les armes, à suivre l'appel à la trêve demandé par Tbilissi. Quel sera, selon vous, l'impact réel de l'Union européenne sur la diplomatie russe?
Je pense que les Russes ont des objectifs assez précis, en fait, qui est le soutien des entités séparatistes, peut-être davantage que le renversement du président Saakachvili, qui ne semble pas véritablement être un objectif crédible, non seulement crédible, mais en plus atteignable. L'Union européenne peut avoir une influence, à la condition finalement de rester à la fois ferme, c'est-à-dire de s'engager clairement pour la cessation des hostilités, et en même temps de se montrer constructif, c'est-à-dire de tout simplement se tenir à distance, par exemple, des États-Unis qui sont très engagés dans ce conflit, qui soutiennent de manière explicite, en fait, la Géorgie depuis plusieurs années. Et donc, il faut savoir se montrer constructif, ne pas condamner, en fait, ni la Russie, ni la Géorgie par avance. Et si elle avance selon ces conditions, à ce moment-là, elle peut avoir une influence, finalement, de médiateur plus ou moins objectif.
Est-ce que l'Union européenne va être amenée à avoir un autre rôle que celui de médiateur?
Et je pense qu'à plus long terme, les perspectives, en fait, de ce conflit, plutôt de s'interroger à la fois sur comment la Géorgie pourrait se réconcilier entre guillemets avec les entités séparatistes, donc les Abkhazes et les Ossètes, pour former un État commun, ce serait une première vraie question pour l'Union européenne. Et puis également, il y a la question de la reconstruction que l'Union européenne sera amenée à traiter en fait dans le cadre de sa politique européenne de voisinage et afin de reconstruire un petit peu les dégâts du conflit.